Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le service national universel sera testé au mois de juin prochain pour 3000 jeunes, tous volontaires, pour inaugurer cette promesse d'Emmanuel Macron. Engagement, citoyenneté, cohésion, voici les maîtres mots de cet exercice qui va durer un mois. Nous l'analyserons dès le début de ce journal.
Et puis nous revivrons ensuite les auditions de la commission sénatoriale sur l'affaire dite Benalla. Elles ont révélé des manquements de la part de l'ancien collaborateur de l'Élysée et des dysfonctionnements de l'administration française.
Carlos Ghosn lâché de toutes parts. Même l'État français veut maintenant changer de gouvernance à la tête de Renault. Les révélations sur de possibles malversations financières auront eu raison du PDG.
Et puis nous reviendrons également sur l'attentat suicide qui a fait 16 victimes. Hier en Syrie, l'attaque est revendiquée par le groupe État islamique et visait des Américains.
La paralysie budgétaire partielle encore et toujours aux États-Unis. Les fonctionnaires touchés ont maintenant du mal à se nourrir correctement, vous l'entendrez. Un mois loin de chez soi, à travailler sur la cohésion nationale, puis sur l'engagement personnel. 3000 jeunes volontaires âgés de 16 ans vont tester à partir du mois de juin le Service National Universel, le SNU. Le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, donne des pistes. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour.
Du service politique de France Culture. Frédéric, ce Service National Universel était l'une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. L'idée est donc d'abord de susciter chez la jeunesse un désir d'engagement citoyen.
Et ce, dès la deuxième quinzaine du mois de juin prochain, ce sont 13 départements qui expérimenteront ce service national universel. Les Ardennes, le Cher, la Creuse, l'Eure, la Guyane, les Hautes-Pyrénées, mais aussi la Haute-Saône, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Val-d'Oise et le Vaucluse, soit un département par grande région et un département d'outre-mer. La première phase durera 15 jours avec des volontaires sélectionnés par les préfets, 3000 jeunes qui devront venir de milieux sociaux différents. L'objectif, explique le secrétaire d'État Gabriel Attal, c'est bien un brassage au sein de la jeunesse française.
Un jeune de Creuse ne fera pas son service national nécessairement en Creuse. Il y aura une mobilité géographique parce que l'objectif, encore une fois, c'est vraiment de rencontrer des jeunes qui viennent d'horizons différents, de découvrir un territoire différent. Le service national universel, c'est pas un service militaire. Les jeunes ne seront pas enfermés entre quatre murs. Il y aura des modules de cohésion en extérieur avec, par exemple, une course d'orientation, des franchissements d'obstacles, des modules liés aux institutions et aux valeurs de la République, liés à la protection de l'environnement et aux éco-gestes. C'est une politique en plus pour la jeunesse. C'est des moyens en plus pour la jeunesse.
Gabriel Attal chez nos confrères de France Inter. Alors, dans cette première phase de 15 jours, l'accent sera mis sur la cohésion nationale. Les jeunes volontaires devront porter l'uniforme, saluer le drapeau et chanter la Marseillaise chaque matin. L'armée participera à l'encadrement et à la formation des encadrants. Le message politique est assez clair. Le gouvernement creuse le sillon des valeurs républicaines, de la discipline, de l'ordre, dans la lignée de la rhétorique employée ces dernières semaines à propos du mouvement des Gilets jaunes. La deuxième quinzaine de ce mois de service national sera celle de l'engagement individuel dans une association ou une administration. Pour l'instant, donc, cette expérimentation ne concerne que des jeunes volontaires. Quand est-ce que ce dispositif deviendra obligatoire? Pour l'heure, le gouvernement n'a pas tranché.
Merci Frédéric Seyss. Voilà donc pour les contours, les détails de ce service national universel qui, on l'a compris, a de nombreux objectifs. Un peu trop, regrette d'ailleurs Louis Boyard, président de l'Union nationale lycéenne. Le SNU, dit-il, ne doit pas être utilisé pour remplacer l'école.
La volonté à travers le service national universel, elle est bonne. Et toutes les activités qui y seront proposées, et pour le moment on ne sait pas tout, en soi, je suis sûr qu'une bonne partie ne seront pas fondamentalement mauvaises. Mais justement, ces activités, elles ne devraient pas être proposées seulement 2 semaines. Elles devraient être proposées en 15 ans, dans l'école. Aujourd'hui, ils nous disent que le SNU doit lutter contre le décrochage scolaire, ça doit faire la mixité sociale, ça doit faire la citoyenneté. Bah, l'école, à l'époque, elle avait été créée pour ça. Et c'est justement parce qu'on a enchaîné les gouvernements qui mettaient en place des coupes budgétaires, qui supprimaient des postes de professeurs, qui faisaient des économies sur l'éducation, qu'aujourd'hui on a une école qui n'est plus citoyenne, qui n'est plus capable de faire de la mixité sociale. Moi, quand j'entends le SNU va permettre d'éviter le décrochage scolaire, je me dis oui, mais comment? On va dire, tu n'y arrives pas à l'école, va donc t'engager dans l'armée.
Louis Boyard, interrogé par Claire Chaudière. Lui, quel citoyen est-il? Est-il parti à l'étranger pour représenter la République française? Il a en tout cas utilisé à de nombreuses reprises ses passeports diplomatiques ces derniers mois. Alexandre Benalla était de nouveau au cœur d'une commission d'enquête sénatoriale hier, ouvertement critiquée par le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, puis par les ministres, et notamment le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Tous deux ont affirmé que l'ancien collaborateur de l'Élysée avait même utilisé un faux pour obtenir ses passeports. Document qu'il a donc largement utilisé, Stéphane Robert.
C'est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, qui a révélé l'information au sénateur.
Nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports et la première utilisation est du 1er août au 7 août. Et les autres utilisations s'étendent sur les mois d'octobre, novembre et décembre.
Alexandre Benalla a donc pu utiliser ses passeports durant 5 mois sans que la machine administrative française s'en émeuve. Question a donc été posée au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La procédure pour obtenir la restitution des passeports a-t-elle été respectée?
Dès le 26 juillet, le bureau des visas a adressé à M. Benalla une demande de restitution de ses passeports. Au bout de quelques semaines, s'est posée la question de la validation de ses passeports diplomatiques et à la demande de la présidence de la République qui nous a été transmise le 15 octobre. S'en est suivi un dialogue entre mes services et ceux du ministère de l'Intérieur. Le bureau des visas et des passeports diplomatiques a notifié le 8 novembre la demande d'invalidation. Cette demande a été reconfirmée le 19 décembre. L'invalidation n'a pu immédiatement être traduite pour des raisons techniques que je pourrais peut-être développer tout à l'heure. Et donc il a fallu que l'on fasse l'ensemble des procédures manuellement.
Vous savez, ce n'est pas une procédure habituelle, a ensuite maladroitement tenté de justifier Jean-Yves Le Drian. Il n'a pas donné plus d'explications au fait qu'il a appris seulement le 24 décembre et par la presse qu'Alexandre Benalla utilisait les passeports qu'il avait conservés. Mais enfin, comment se fait-il après ce qui s'est passé cet été? S'est interrogé le président de la commission, Philippe Bas. Qu'un suivi ou une cellule de crise n'a pas été mise en place, ne serait-ce que pour protéger le chef de l'État d'éventuels rebondissements? Là encore, la question est restée sans réponse.
Et notons qu'une enquête est toujours ouverte par le parquet de Paris. L'affaire Benalla, nous y reviendrons après ce journal dans le billet politique avec un petit tutoriel pour ne pas répondre aux questions des journalistes. Cette enquête-là va aussi faire tomber une tête. Alors que Carlos Ghosn est en détention depuis près de 2 mois maintenant au Japon, accusé de malversations financières, le gouvernement français souhaite changer la gouvernance de Renault en son absence. L'exécutif le fait savoir par la voix du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dont le ton a bien changé par rapport à ce qu'il disait encore il y a quelques semaines, voulant respecter la présomption d'innocence. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais en préservant surtout le groupe automobile français, Renault donc. Il faut du changement, a dit hier soir sur LCI Bruno Le Maire.
Ce que l'État, comme actionnaire de référence, souhaite, c'est d'abord la convocation du conseil d'administration de Renault. La deuxième chose que nous souhaitions, c'est que ce conseil d'administration désigne une nouvelle gouvernance pérenne pour Renault. Nous avons besoin de cette nouvelle gouvernance pérenne. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui est essentiel, c'est les centaines de milliers de salariés et d'ouvriers qui aujourd'hui disent « Bon, on voit bien que la procédure dure, qu'il y a cet empêchement durable. Eh bien, il faut que nous ayons la garantie qu'il y a aux manettes de Renault une gouvernance qui est pérenne. C'est le sens de la décision que nous prenons. »
Bruno Le Maire qui précise que l'alliance Renault-Nissan sera préservée. Le conseil d'administration de Renault se réunira ce dimanche. Un quart des Français a déjà été confronté à une pénurie de médicaments. Voici le message de France Asso Santé qui publie ce matin les résultats d'une enquête. Dans plus d'un cas sur trois, ces ruptures de stock concernent des vaccins. Parole contre parole, hier à la cour d'assises de Paris, deux policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, étaient entendus dans le cadre de leur procès. Ils sont accusés de viol par une touriste canadienne. Elle aussi a témoigné hier. Compte rendu d'audience signé Florence Turme.
À la barre, Émilie Spanton livre un récit détaillé des viols qu'elle affirme avoir subis des deux policiers. Elle répond aux questions, la voix souvent tremblante, parfois brisée par les pleurs, de plus en plus tendue au fil de son audition, au fur et à mesure que les avocats de la défense insistent sur ce qu'ils présentent comme les incohérences de son témoignage, son ivresse, la consommation de stupéfiants, son attitude suggestive au pub irlandais. À leur tour, les deux accusés donnent leur version de la rencontre, un contexte de drague mutuelle pour l'un, une attitude entreprenante de la plaignante selon le second. Ils sortent ensemble à pied acheter des cigarettes, elle l'embrasse sur le trajet. Tous les deux s'accordent à dire que c'est Émilie Spanton qui voulait visiter le service, elle soutient le contraire. Et ce soir-là, quel était votre statut, intervient l'avocat général. En service pour l'un, de permanence pour l'autre qui devait repasser au bureau récupérer un dossier d'intervention. Et cela ne vous a pas empêché de boire ni d'emmener une fille au 36. Les policiers ont admis avoir consommé chacun 4 ou 5 pintes de bière blanche. L'avocat général enfonce le clou et vous allez prendre connaissance d'un dossier à 1h du matin, alcoolisé. Ce sont les meilleures conditions ? De la part d'un fonctionnaire d'une unité d'élite, la réponse a de quoi surprendre. C'est pas exceptionnel non plus.
L'audience de ce jeudi sera consacrée aux analyses ADN.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le groupe État islamique prouve qu'il est encore actif en Syrie, malgré ce qu'affirmait Donald Trump.
Ah oui, le groupe État islamique qui a visé directement les Américains hier. Un attentat suicide a tué 16 personnes, dont 4 Américains, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cela s'est passé dans le nord du pays, Laure Stéphane.
Une boule de feu engloutissant des personnes, d'autres tentant de fuir, telles sont les images filmées par une caméra de surveillance à Manbij, la ville du nord de la Syrie, où un attentat suicide a visé une patrouille américaine. Celle-ci effectue un déplacement de routine, accompagné par des membres de la force arabo-kurde que Washington soutient. Le lieu de l'attaque, où le sol a été recouvert de gravats et de taches de sang, n'est pas anodin. Manbij est une ville stratégique, elle a été prise aux djihadistes de l'État islamique en 2016 par la coalition de combattants dominés par les Kurdes, alliés des Américains. Selon des journalistes sur place, la sécurité a été renforcée après l'explosion et des blindés portant le drapeau américain étaient visibles dans les rues de Manbij. L'attentat intervient alors que le flou règne autour de l'annonce du retrait américain de Syrie. Pour justifier sa décision en décembre, Donald Trump avait affirmé que le groupe État islamique avait été vaincu. Pour ses opposants, l'explosion contre la patrouille américaine prouve bien le contraire. Depuis l'annonce, du matériel militaire a été rapatrié, mais il n'y a pas eu de mouvement de troupes. Les tensions sont montées d'un cran dans la région sous contrôle kurde depuis l'annonce américaine. Les Turcs ont multiplié leurs menaces d'attaquer les combattants kurdes. Ils appuient la proposition du président américain de créer une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Une proposition aussi floue que l'annonce du retrait.
Il a décidément l'art de créer l'incertitude. Donald Trump, en demandant le financement d'un mur à la frontière américano-mexicaine, fait durer le shutdown. Les démocrates aussi, puisqu'ils refusent toujours de signer ce budget en l'état. La paralysie budgétaire partielle aux États-Unis dure donc, et depuis 27 jours, autant de jours passés en travaillant sans être payés pour 800 000 fonctionnaires du pays. Alors, à quelques pas de la Maison-Blanche à Washington, le chef José Andrés a ouvert pour les aider une cantine provisoire et gratuite, comme l'a constaté Grégory Phillips.
Vers 13h, la file d'attente commence à être impressionnante. On y croise un agent du FBI en uniforme, des employés du ministère de l'Agriculture, un gardien de musée. Et ils ont un point commun, aucun d'entre eux n'a été payé depuis le 22 décembre. Moi, mon activité est considérée comme essentielle, donc je dois travailler sans être payé, dit Jennifer, employée du ministère de la Justice au service des probations. On est vraiment des pions dans cette histoire folle de murs à la frontière. Et en plus, le président a dit qu'il s'en fichait si ça durait comme ça pendant un an. C'est le chef José Andrés qui a créé cette cantine gratuite qu'il a volontairement et de manière symbolique installée sur Pennsylvania Avenue, exactement à mi-chemin entre le Capitole où siège le Congrès et la Maison Blanche. Son association distribue généralement de la nourriture sur les terrains de catastrophe. Dans le restaurant, les fonctionnaires déjeunent, discutent et partagent leurs difficultés financières liées à ce shutdown. Moi, j'ai 3 enfants, dit Christine. Je viens d'acheter une maison avec un gros crédit. C'est très angoissant. Les deux parties doivent discuter et trouver des compromis. Un peu comme dans un mariage, il faut que chacun accepte de reculer un peu. Le chef, José Andrés, a prévu de distribuer des repas jusqu'à la fin de ce blocage des administrations qui, demain vendredi, entrera dans sa 5e semaine.
Grégory Phillips. Une grève générale en Tunisie ce jeudi. Le secteur public sera à l'arrêt car les fonctionnaires réclament toujours des augmentations de salaire dans un pays où l'inflation frôle les 8%. À 19 voix près, Theresa May sauve sa place de première ministre. Elle a échappé hier à une motion de défiance. La chef du gouvernement est plus fragilisée que jamais. Elle a pu compter toutefois sur son camp conservateur et sur le DUP, le petit parti unioniste nord-irlandais, qui pourtant lui avait infligé la veille un revers cuisant en balayant son accord sur le Brexit. Alors est-ce une stratégie de sa part ou une obligation politique? Question posée par Stanislas Vazak à Aurélien Antoine, directeur de l'Observatoire du Brexit.
C'est quand même incroyable que ce petit parti extrémiste fasse la pluie et le beau temps à Westminster. Dans la logique des institutions, elle aurait dû démissionner et conduire à des élections anticipées qui permettraient à chaque parti de se déterminer clairement sur ce qu'ils veulent sur le Brexit et avoir un propos tout à fait clair vis-à-vis des électeurs.
Et ça, c'est une spécificité britannique. En fait, les partis, lors d'une campagne électorale, sont un peu obligés de sortir du bois.
Oui, ils ont des programmes qu'on appelle des manifestos sur lesquels ils s'engagent et qu'ils doivent suivre une fois qu'ils sont à la tête du gouvernement à travers le fameux discours de la reine qui n'est ni plus ni moins que le programme. La seule exception, c'est en général quand on est dans des programmes de coalition qui nécessitent de faire des concessions en amont. Mais on doit suivre le programme. D'ailleurs, David Cameron avait dû suivre son engagement en 2016 lorsqu'il a gagné les élections pour le référendum qui a mené au Brexit d'aujourd'hui.
Brexit, du rejet britannique à l'impasse européenne. Les discussions reprennent dans une dizaine de minutes avec nos invités des matins de France Culture. Juste le temps pour moi de vous donner quelques prévisions météo France. Les averses vont traverser le pays du sud-ouest au nord-est ce jeudi. Il fait ce matin 5 degrés à Lille, 7 à Brest, Paris et Bordeaux, 10 degrés à Marseille.
Et à Bayonne.
Et à Bayonne.
Eh ben oui, il faut le dire, tout, Clara Lecoq-Réal, merci.